vous aime bien, franchement. Parce qu'avec monsieur Belli, tout à l'heure, vous avez répondu à peut-être 10 personnes. Sur la 10 personnes, on fait quand même la conférence. Finalement, vous êtes plus nombreux. Donc, bravo pour votre courage. Alors, je vais vous présenter monsieur Belli. Monsieur Belli est agrégé d'histoire. Il a soutenu une thèse d'État qui était consacrée aux diplomates et à la diplomatie autour de la paix d'Utrecht en 1713. Ça peut être un sujet un peu ardu. Oui, non. Non, finalement, oui. Il est nommé professeur d'histoire moderne à l'Université de Lille, puis à Paris 12. Et enfin, il est nommé professeur des universités à Paris 4, poste qu'il occupe actuellement. En dehors de ce parcours de professeur, durant le troisième gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, il a été conseiller aux sciences humaines et sociales de François Fillon, qui était alors ministre de l'Éducation nationale. Donc il va nous parler ce soir des secrets de Louis XIV. Notre roi soleil aimait peut-être aussi un peu l'ombre, beaucoup peut-être même, et donc il va vous parler de toutes ces histoires un petit peu ténébreuses autour du règne. Bonne conférence.
Merci beaucoup.
Merci. Et je vous rends cette ange. Si j'arrive à l'envers.
Merci d'avoir affronté les grands froids et nous allons finir dans les temps parce qu'il faut aussi rentrer chez soi. Je crains que ça devienne très compliqué. Alors, pour cette heure que nous allons passer ensemble, je remercie les amis de Versailles, je suis très heureux d'être là. Je viens assez souvent dans ce bâtiment pour des réunions, puis avec les étudiants, nous avons souvent un séminaire dans les hauteurs, là, chaque année, et c'est très agréable. Alors, je vais vous emmener loin de 2014 pour commencer, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais très jeune, j'ai participé au cabinet d'Alain Perfit. Vous vous souvenez d'Alain Perfit?
Ah oui.
Et Alain Perfit était à ce moment-là garde des Sceaux. Alors, vous voyez, c'était dans son magnifique bureau de la place Vendôme. Et il avait besoin de petites mains. Vous savez, les ministres ont besoin de petites mains qui écrivent leurs discours, leurs lettres, éventuellement des chapitres de livres. Et il m'avait reçu, il était très majestueux. C'est un homme grand, grande allure. Et il m'avait dit, je vous demande deux choses, le secret et le service. Et ça m'est resté dans l'esprit. Et un homme politique a besoin de secret. Et il me demandait le secret, c'est-à-dire de ne pas trop parler. Et ça m'a sans doute poursuivi, puisque j'ai travaillé sur les négociateurs, et j'ai vu à quel point c'était fondamental pour eux de garder le secret. J'ai beaucoup... Les espions et l'espionnage. Et c'est ce qui m'a donné, plus tard, l'idée de faire un livre qui s'est intitulé « Les secrets de Louis XIV », mais pour lequel j'aurais préféré ce titre-là, « Le secret royal de Louis XIV », c'est-à-dire réfléchir en quoi le métier de roi, comme disait le souverain lui-même, a besoin de secrets, se nourrit de secrets. Alors, quand on parle de secret, d'ailleurs, secret du roi, on pense peut-être, pour vous qui connaissez bien les choses, au secret de Louis XV. Il y avait un service qui s'est appelé le secret. Et il y a des romans de Gilles Perrault autour du secret du roi. Eh bien, d'une certaine manière, Louis XIV, peut-être mieux que son arrière-petit-fils, a été lui aussi un homme du secret. Alors, le secret, c'est finalement une notion assez commune. Nous avons tous des secrets. Des secrets de famille, des secrets personnels, et nous tenons à les protéger. Mon idée, c'est que finalement, le secret n'est pas le même selon les époques. Aujourd'hui, vous voyez, on parle beaucoup de ses sentiments à la télévision, autrefois on en parlait moins. Aujourd'hui, on ne parle pas de la maladie, très peu, on ne parle pas de la mort. C'est pas très, très engageant, vous voyez. Autrefois, on en parlait beaucoup. La société rurale parlait beaucoup de morts, et Louis XIV lui-même envisageait la mort avec beaucoup de courage et de dignité. Donc, vous voyez, je pense que chaque époque a sa propre vision du secret. Alors, également, qu'est-ce que c'est que le secret? C'est pas forcément la discrétion. Vous voyez, il faut distinguer le secret de la simple intimité, de la sphère personnelle, de la vie de la conscience, c'est-à-dire de la foi, qui sont finalement protégés par la discrétion. Le secret, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Le secret se construit. Il faut prendre des précautions, il faut avoir du soin et éviter justement que d'autres viennent percer ce secret. Et c'est un peu une sorte de barrière que l'on se construit vis-à-vis des autres. Il y a aussi différents types de secrets. Il y a le secret personnel, mais pour un prince, c'est un secret qui engage aussi l'ensemble d'une société, un royaume. Louis XIV, c'est un homme qui s'intéressait aux affaires du pays, donc il y a un secret différent selon le simple sujet et puis l'homme public, l'homme qui a de grandes responsabilités. Alors, je crois que, vous le voyez, le secret, c'est aussi finalement une idée qui est associée au pouvoir, à l'autorité. On a besoin de secrets lorsqu'on exerce des responsabilités, lorsqu'on exerce une action dans la société. Or, le XVIIe siècle a beaucoup réfléchi sur le secret. C'est une réflexion profonde. Alors, on distinguait, il y avait toute une hiérarchie. Le secret est permis par la morale. On a le droit d'avoir de secret. Le degré déjà plus complexe, c'est la dissimulation. Et vous verrez, c'est on peut dissimuler. Troisième stade, c'est la simulation. Alors là, c'était pas bien. Et le pire, c'est le mensonge. Qui là est une volonté de tromper. Et finalement, c'est le cas. Et tous les penseurs depuis le XVIe siècle ont réfléchi sur ces différents stades. Et vous le verrez, c'est finalement très, très, très marquant. C'est un peu une structure de l'esprit du XVIIIe siècle. Le XVIIe siècle a aussi valorisé le secret. Finalement, toutes les choses importantes sont marquées par le secret. Le secret de la nature. Le savant doit découvrir les secrets de la nature. C'est ça finalement la science. La révolution scientifique du XVIIe siècle, c'est l'homme qui a mobilisé toutes ses connaissances pour percer les secrets de la nature. Il y a les secrets de Dieu. Tout le monde n'est pas autorisé à parler de théologie. Louis XIV se gardait bien de parler de théologie. C'est réservé à des hommes d'église, à des savants, qui sont finalement des savants de la religion. Et puis, il y a les secrets de l'État. Et Louis XIV, finalement, vous voyez, a fait la sensation, et autour de lui, la monarchie française avait érigé les affaires d'État à un tel niveau de respect qu'elle devait être protégée par le secret. Vous savez, c'était très important au temps de Richelieu en particulier, le secret d'État, qui est finalement aussi une forme de la raison d'État. L'État a des raisons que les gens communs ne doivent pas connaître ou ne peuvent pas connaître. Ça les dépasse. Ça, c'est le roi qui peut prendre des décisions sans s'en expliquer. Et c'est très fort. C'est une évolution qui a marqué justement ce royaume qui est devenu plus absolu, ce pouvoir qui est devenu plus absolu à partir de Richelieu. Et on a retrouvé par là même toute une culture venue de l'Antiquité. Autour de Tacite, ce qu'on appelait les arcana imperii, les secrets de l'État. Toute une tradition de la pensée politique qui disait qu'un État, pour bien fonctionner, doit défendre bec et ongle ses arcana imperii. Et on le voit bien même pendant la Fronde, à un moment, les parlementaires veulent se mêler des affaires d'État, et Mazarin leur dit : alors, vous voulez vous mêler des mystères de l'État ? Il dit : oh non ! Donc ça, c'est pas notre domaine, c'est le domaine du roi. Nous ne sommes pas, nous ne voulons pas être accusés de lèse-majesté. Les affaires étrangères, par exemple, le droit de faire la guerre et la paix, ça, ce sont les affaires du roi. Nous voulons le bien des Français. C'est ça qui nous intéresse. Donc vous voyez, tout un effort marqué en France, nous le verrons tout à la fin, c'est pas le cas ailleurs, et qui a finalement donné de la valeur au secret. Et finalement, Louis XIV est un bon élément, voici jeune, un bon élément parce que finalement sa propre personnalité d'enfant, de jeune homme, a été marquée par le secret. Voici quelques témoignages à propos du jeune Louis XIV. Son valet de chambre, qui connaît mieux un enfant que son valet de chambre, l'aborde. Il est vrai qu'il était déjà très secret, et je puis dire y avoir contribué. Car je lui ai dit plusieurs fois pour l'y préparer qu'il fallait qu'il fût secret, que si jamais il venait à dire ce qu'on lui aurait dit, s'assurer qu'il ne saurait jamais rien que les nouvelles de la Gazette. Vous voyez, ça fait partie du métier de roi. Ils sont mieux inculqués. On ne doit rien dire. que de ce que l'on sait, sinon de façon très, très posée, en réfléchissant, en étant tout à soi-même. Deuxième, l'Èvre et le confesseur du jeune Louis XIV, écrit à Mazarin en avril 1653, « Le roi croit en sagesse et en dissimulation ». Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ce sera un compliment, hein. On dirait ça d'un jeune homme, c'est pas... Vous voyez, vu par le confesseur, c'est une grande qualité de roi. Il est dissimulé. Il ne montre pas dans son regard, dans son attitude, ce qu'il peut savoir. Il ne raconte pas n'importe quoi à ses petits camarades. Et voilà justement un de ses petits camarades, Brienne, fils d'un secrétaire d'État, il se cachait à moi comme à tout le monde, et je lui trouvais quelquefois si peu d'intelligence que j'en étais étonné. J'avoue que je lui mépris. Vous voyez, à force de dissimuler, à ne pas dire ce qu'il sait, il apparaît comme un peu niais. Et vous voyez, ça fait partie justement de l'art de gouverner. Alors, c'est d'autant plus difficile que finalement, un roi est regardé par tout le monde tout au long de sa vie. Il est sous le regard d'autrui. Il vit sous le regard de ses courtisans, de sa famille, et le moindre de ses gestes, le moindre de ses regards est analysé. Et tout au long de sa vie, ce sera ça. On regardait dans sa jeunesse qui Louis XIV regardait, en particulier quelle jolie femme il pouvait regarder. On disait, tiens, il a regardé celle-ci, peut-être qu'elle lui plaît. Et tout immédiatement, les gens brodaient. Donc vous voyez, c'est une condition de vie très spéciale, hein, qui est celui d'ailleurs de nos hommes politiques, hein, et probablement de nos présidents de la République. Donc la cour est finalement un monde qui entoure le roi et qui le protège. Voici par exemple cette réception hein, du nonce Kitchi, du légat Kitchi, pour présentant les excuses du pape après l'incident de Rome. Et le roi, vous voyez, le reçoit dans la ruelle de son lit, derrière le balustre, comme on disait. C'est l'endroit le plus sacré. Le roi reçoit les officiels dans sa chambre. Quand je fais des cours à Abu Dhabi, où il y a, vous savez, un marché, quand je montre quelque chose comme ça aux étudiants d'Abu Dhabi, mais quoi ? Le roi recevait dans sa chambre. Aujourd'hui encore, on dirait que le président de la République reçoit le nonce du pape dans sa chambre. On trouverait ça bizarre. Vous voyez, c'est le lieu de la grande intimité qui est le lieu le plus sacré. Ce lieu où on reçoit les hommes les plus importants. Et mieux, on les reçoit encore plus près de lui, derrière le balustrier. Ce portrait, cette magnifique tapisserie du roi a été faite avec beaucoup de soin. Et on voit bien que les courtisans, eux, n'ont pas accès à l'espace derrière le balustre. Et c'est, d'ailleurs, cette tapisserie a été très contestée par Saint-Simon, vous voyez, parce qu'un homme porte un chapeau qu'il n'aurait pas dû porter. Donc, vous le voyez, la cour, le cérémonial de cour, avec ses moments forts, le lever de toutes les différentes entrées, c'est une façon de protéger la vie du roi. Et tout les hommes et les femmes ne sont pas admis à n'importe quel moment. C'est une façon de les classer. Et vous voyez encore ici une cérémonie de la chambre du roi, c'est l'institution de l'ordre de Saint-Louis. Et toujours dans la chambre lieu du secret, lieu de l'intimité la plus grande, c'est là où on passe beaucoup de temps. Et pourtant, c'est le lieu le plus officiel. Et vous le voyez, là, il crée l'ordre de chevalerie qui porte finalement son nom et qu'il a créé autour de sa personne. Il y a également l'organisation des audiences. Ici, vous avez l'audience du fils de l'électeur de Saxe, qui est venu incognito à la fin du règne, sous le nom de comte de Lusace, et vous voyez, il est présenté au roi dans le cercle très étroit de sa famille, et vous avez au milieu la belle-sœur du roi, qui était une Allemande, vous voyez, qui présente un Allemand, comme c'est un prince allemand, elle peut parler allemand, donc elle le présente au roi, et vous le voyez, là, c'est un cadre qui est aussi le cadre de la chambre du roi. Dans le plus récent numéro de Versailles, vous verrez, Vivien Richard fait un article sur la chambre du roi, il fait sa thèse, qui termine sa thèse, que j'ai accompagné, et on voit bien que la chambre, elle a hésité, elle n'a pas tout de suite été trouvée là où on la vend aujourd'hui. Elle a beaucoup circulé dans le bâtiment. Et finalement, elle s'est trouvée à sa place actuelle au début du XVIIIe siècle. Et en même temps, vous le voyez, progressivement, elle est devenue le lieu le plus politique. Et les grands appartements, c'était finalement des lieux où les courtisans vivaient, où passaient, où il y avait des réceptions. Mais le lieu du roi, le lieu des réceptions, enfin des audiences les plus importantes, était dans sa chambre. Alors il y a des cercles concentriques. Le roi se présente aussi lorsqu'il va à la messe, et c'est le moment justement de sa chambre, son appartement privé, à la messe, un moment où on peut demander à lui parler. Mais alors là, il faut demander l'autorisation, il faut que les gardes du corps soient prêts, et on peut lui tendre éventuellement une requête. Vous voyez, donc tout ça, tout accès au roi est très sévèrement contrôlé. En même temps, le roi est accessible, il est visible. Et ça, c'est très important. Le roi s'en vante, on me voit. C'est très différent de certains princes européens, comme le roi d'Espagne, l'empereur, qu'on voit moins. C'est très différent des princes d'Asie, qu'on ne voit presque jamais. L'empereur de Chine, dans sa cité interdite. Le grand mogol en Inde, que l'on ne voit que périodiquement. Le sultan, qui ne sort du sérail que très peu. Vous voyez, dans beaucoup de systèmes politiques, pour impressionner les peuples, eh bien, on rend le roi très, presque invisible. Au Japon, jusqu'à récemment, c'est quand même un empereur qu'on voyait très rarement. On ne devait même pas le regarder, on ne devait pas croiser le regard de l'empereur du Japon. Il fallait tout baisser les yeux devant lui. Vous voyez, ça fait partie des systèmes politiques. Alors, la France est dans un système absolu, c'est un roi absolu, mais néanmoins, on dit que c'est un système policé. Le roi est visible, est accessible, mais dans certains moments, et la messe est un moment important où il se montre, et vous voyez ce beau tableau, j'en ai fait d'ailleurs la couverture d'un des livres que j'ai fait sur la France au XVIIe siècle, est assez représentatif de ce qu'est la cour, avec, vous voyez, des gardes. Finalement, à la messe, il y a des gens qui ont des fusils, c'est un lieu aussi armé, mais vous avez aussi toutes ces subtilités de la cérémonie. Vous voyez, le roi est sur un carreau, là, c'est une cérémonie particulière, puisque c'est le serment du grand maître de l'ordre du Saint-Sépulcre, et vous voyez, certains des princes ont aussi droit à un tapis, mais sans carreau. Donc tout ça est très réglé, très ordonné, mais vous avez aussi des dames qui se montrent et qui observent tout cela. La famille royale, bien sûr, elle, privilégiée, elle peut accéder au roi en permanence, on disait, par les derrières. C'est-à-dire qu'on pouvait finalement très facilement entrer chez le roi, et puis dans sa jeunesse, Louis XIV avait aussi toute certaines circulations pour les belles dames qu'il aimait bien et qui entraient aussi par les derrières. Donc vous voyez, la cour est un système qui permet à la fois de montrer le roi et donc de distinguer la monarchie française des despotismes, mais la cour est aussi un moyen de limiter l'accès au roi, de le contrôler de manière à ce qu'il n'y ait pas en particulier d'attentat. Voici la cour, le moment où le roi se montre aussi, c'est lorsqu'il part à la chasse. Et vous le voyez, ce climat de protection, de secret, fait que la cour était aussi un lieu d'autant plus intéressant. C'est un lieu dont puisqu'on cache certaines choses, c'est qu'il y a des choses à savoir. Et donc, toute la curiosité des courtisans, c'est d'essayer d'apprendre des choses. Et c'est finalement le meilleur résultat sur les mémoires de Saint-Simon, qui toute sa vie a gratté pour essayer de découvrir, je dirais, l'envers des cartes. Quels sont les mystères de ce monde? Alors là, vous voyez, c'est une représentation de l'accès, c'est au début du règne, les sujets peuvent avoir accès au roi. Alors ça ne s'est jamais passé comme ça, mais vous voyez, on donne l'impression que le roi préside une séance où on lui remet des documents, et il jugera. En réalité, ces documents étaient reçus, puis
distribuée entre les quatre secrétaires d'État qui réglaient les affaires. Et souvent, j'ai donné un travail un jour, c'était souvent des demandes de privilèges. Alors, en réalité, c'était rarement des plaintes véritables. C'est souvent, on demandait telle ou telle fonction, et tout ça est répertorié dans nos archives. C'est colossal. Hein. Monsieur Bercier a fait un très beau livre où il montre que c'est une tradition qui est restée vivante jusqu'à nos jours. Il y a un monceau de lettres qui arrivent, par exemple, au président de la République ou à chaque ministre. Et ce sont des bureaux qui traitent ça. Vous envoyez une lettre au ministre, vous pensez que c'est lui qui la lit, mais non. Il en reçoit des dizaines, des centaines par jour. Donc c'est distribué aux différents bureaux et qui enverront une réponse signée du ministre. Hein. Et on dira, le ministre a bien vu votre requête. Hein. Donc vous voyez, ce sont des grosses machines. Vous voyez, ça naît dès le temps de la monarchie. Et c'est une gravure du début du règne qui, là aussi, insiste sur le fait que le roi lui-même peut répondre à n'importe quel sujet. Et ça, c'est fondamental. Ce lien essentiel. Alors, comme je vous l'ai dit, en même temps, ça crée des mystères. Qui est cette dame qui s'est imposée progressivement dans la vie de cour? On lui a même mis un appartement tout près du roi. Alors, on s'est bien douté qu'ils ne faisaient pas que de la lecture ensemble, mais néanmoins, longtemps, on l'a pensé. Hein, elle n'était pas de grande noblesse, elle n'était pas très jeune, elle n'était pas très belle, on l'a dit, il a eu mieux. Hein, et certains commentateurs disent finalement, elle fait pénitence avec elle. Bon, ce qu'on n'a jamais su, c'est, vous voyez, c'est qu'il était marié. Et Saint-Simon n'arrive pas à le croire. Qu'un roi de France ait pu épouser la veuve Scarron, c'est quand même, vous voyez, dans l'esprit du temps, mésalliance absolue. Hein. Et vous voyez, on lui a quand même mis l'habit de Sainte Françoise Romaine. Ça prouve bien que vous voyez, les bons courtisans savaient trouver le détail qui plaisait au roi. Il en a fait une sainte par la même occasion, ce qui n'était pas faux d'ailleurs. C'était une femme pieuse et très, très remarquable. Et d'une certaine manière, ça a été un des bons conseillers du roi. Il n'y a pas à discuter là-dessus. On s'est beaucoup posé des questions sur la dauphine de Bavière, qui vivait dans un grand isolement. Et on disait qu'elle était paresseuse. C'est à elle que Louis XIV a dit que le rôle des princes était de vivre en public. Et elle-même disait qu'elle était malade. Et en effet, à son troisième enfant, elle est morte. Vous voyez, tout le monde essayait de savoir si c'était de la simulation. Vous voyez, on l'accusait presque de simuler la maladie. Et ça, c'est pas permis. Et elle avait beau dire, je suis malade. Hein, et elle est morte très, très, très jeune. Autre personnage, mademoiselle de Choin, qui vivait dans l'entresol, généralement, des demeures du dauphin. Qui était-elle? Probablement sa femme. Vous voyez, dans une situation très modeste, vivant d'ailleurs une partie du temps à Paris. Alors ceux qui savaient un peu les choses, lui envoyaient des petits cadeaux, la choyaient, mais c'était la femme morganaire, enfin la femme cachée du dauphin. Et des secrets aujourd'hui qui passionnent. Vous voyez, moi j'ai appris très tard qu'il y avait une mauresse dans une abbaye à Moret, qui disait qu'elle était la fille de Louis XIV. Étonnant. Et on a un portrait d'elle, vous le voyez ici, elle était noire. Et on s'étonnait parce que la famille royale allait lui rendre visite. Et elle disait, vous voyez, c'est mon frère qui passe quand le dauphin chassait. Elle allait entretenir cette... Et on ne sait pas ce que ça peut être. Alors, est-ce une fille du roi? Pourquoi pas? Le roi n'avait pas de préjugé. Donc peut-être que, vous voyez, il y avait des troupes d'acteur, peut-être qu'il a eu une aventure, pourquoi pas. Ce qu'on pense aujourd'hui, c'est plutôt, en effet, des valets noirs qui ont dû servir, qui se sont mariés, ils ont eu un enfant, et elle est devenue religieuse, et le roi la protégeait, parce que c'était des gens qu'il aimait bien. Hein, et il donnait de l'argent pour entretenir une religieuse. Au moment, vous savez, on a pensé que c'était une fille de Marie-Thérèse. Non pas que Marie-Thérèse était soupçonnée d'avoir une aventure, mais elle aurait vu un noir et son enfant serait devenu noir. Oui, ça arrive comme ça. Hein. Mais la maladie dit, c'est pas vrai que ma belle-sœur est accouchée d'un enfant noir. C'est pas vrai. Donc si elle le dit, c'est bien que ça circulait. Donc vous voyez, c'est des choses quand même qui sont des choses. choses importantes, et ça circule. Alors, vous le voyez, le secret, ça, ce qui fait également que Versailles est un lieu bien gardé. Et si, finalement, la cour s'est installée à Versailles, à mon avis, c'est parce qu'il y avait la chasse, parce que Louis XIV aimait bien la vie en plein air, parce que Saint-Germain était un peu petit, il fallait quelque chose de plus grand, il voulait une grosse cour, mais aussi probablement pour des questions de sécurité. C'est quand même plus facile de surveiller les gens qui arrivent, de fermer le palais le soir, et ça suppose beaucoup de gardes. Et vous voyez ici, j'ai pris cette belle vue de Versailles, parce qu'on voit bien, vous voyez, la circulation du roi se fait avec beaucoup de gardes. Et un collègue néerlandais a fait une très belle étude comparée de Versailles et de Vienne, il s'appelle Jeroen Duindam, et il a compté le personnel finalement de Versailles. Et dans la maison du roi, finalement, il n'y a pas tant de domestiques que ça. Ça tourne autour de 1000 personnes. C'est beaucoup. Mais bon, c'est à peu près ce qu'un roi a pour son service ordinaire. Madame a pratiquement tous le même nombre de personnes. Vous voyez, un ambassadeur, il a 300 personnes à Rome. C'est ce qu'il faut pour bien vivre. À côté, il y a des gardes. Et on arrive dans les comptes, je vous passe le détail, mais on arrive en gros à 10 000 hommes. Plus d'autres corps, vous voyez, il faut les loger. Ils sont dispersés autour de Versailles, à Paris, les mousquetaires à Paris, les Suisses à Rueil. Donc vous voyez, il faut loger tout ce beau monde. Et toujours dans le dernier numéro de Versailles, qu'on m'a donné tout à l'heure, j'ai vu, il y a un très bel article sur certains gardes et voir comment, quelle place ils occupaient, ils circulent aussi dans le château. Et vous voyez, d'une certaine manière, c'est aussi un lieu très protégé. Il y a des gardes de la porte, une sorte de spécialisation très précise pour justement protéger le roi. Vous voyez, ce que l'on craint, c'est l'attentat. Et ce que l'on surveille, moi j'ai beaucoup étudié, regardé les dossiers de la Bastille, on enferme les gens. Quelqu'un qui vient à Versailles et qui fréquente les bureaux et qu'on ne connaît pas bien, on le prend et on l'amène à la Bastille. Et on voit. Et puis si on n'a pas beaucoup de certitudes, on le laisse quelques dizaines d'années, jusqu'à la paix, on est sûr. Mais c'est un peu ça, c'est quelqu'un qui a un mauvais dessin. Alors parfois ça arrive pour des braves dames, j'ai trouvé le cas d'une dame de la bonne noblesse d'ailleurs, qui probablement elle devait avoir un petit grain, est soupçonnée d'avoir mis un mouchoir empoisonné sur le prie-dieu du roi. Alors elle dit ça immédiatement, on la prend et on l'interroge, on la vit peut-être pas très doucement, bon, elle est de la noblesse, on va la protéger, mais enfin on l'interroge beaucoup, et alors on dit, mais elle ne sait plus très bien où elle a mis le mouchoir, si c'était en dessous du tapis, sur le tapis à côté, donc comme c'est pas très clair, on dit qu'elle doit perdre un peu la tête, mais vous voyez, tous ces domestiques sont aussi en prison, et on les questionne, pour savoir, et alors ce mouchoir, qu'est-ce que c'était? Et elle, bon, visiblement on pense que là, c'est un mythomane, donc on l'envoie dans un lointain monastère de Bretagne où on lui fait pas de mal. Elle n'a rien fait, mais voyez, elle a inventé une histoire et on libère les domestiques. Mais ça, vous voyez, comme c'est une grande sensibilité, qui probablement aujourd'hui où nous découvrons tout le terrorisme, nous sommes aussi devenus très sensibles à cela, une sorte d'inquiétude, et autour du roi, c'est vraiment fondamental. Alors, l'État, si la cour protège le roi, l'État protège le roi. Voici les conseils. Le merveilleux aussi à Versailles, c'est qu'on a à la fois un monde de divertissement, de courtisans qui sont là pour voir le roi, pour l'accompagner dans sa vie, pour assurer des tâches très domestiques, finalement. Parmi les grandes tâches, il y a le chambellan. Qu'est-ce que c'est que le grand chambellan? C'est celui qui s'occupe de la chambre. Il y a le grand maître qui s'occupe de toute la bouche. Qui est le grand maître? C'est le prince de Condé. Donc il y a toute une série de tâches très concrètes, très dignes, très réputées. Et puis vous avez tous ces hommes de robes ou de petites noblesses qui assurent les fonctions d'État. Et vous avez là une session du conseil des partis. Vous voyez, le roi préside lui-même et vous avez les conseillers d'État qui représentent l'État. Vous voyez, tout à l'heure je vous ai parlé de chapeau. Et ça s'y voit, il y a quelqu'un qui a un chapeau. Là, ils ont tous un chapeau parce que c'est l'État. Ils sont un chapeau commun. Ils ne sont pas des hommes de robe. Hein. C'est pas le gratin, enfin, c'est le gratin de la robe, mais c'est pas des grands seigneurs, ils sont bien en noir. Hein, oui. Et Louis XIV a donc pris la résolution dès 1661 d'avoir un conseil très restreint. C'est un cas très singulier, c'est-à-dire que toutes les grandes décisions sont prises dans le conseil d'en haut. Il entre au début 3 personnes, un peu plus parfois, mais vous voyez, on ne met pas jamais 4-5 personnes. Puis il fait entrer progressivement son fils, le dauphin, et puis ensuite le duc de Bourgogne, son petit-fils. Vous voyez, c'est les futurs rois. Donc la décision, elle est prise, vous voyez, les grandes décisions. Faire la guerre, à quel moment ? C'est pris entre 5 personnes. Si ça se sait à l'extérieur, c'est qu'un a parlé. C'est clair. Et tous, vous voyez, il les a tous gardés jusqu'à leur mort. Hein. C'est un moment de grande stabilité ministérielle parce que justement, ils ont tenu leur langue. Turenne, par exemple, ne tenait pas sa langue. On lui a parlé un jour d'un voyage de madame, j'en parlais tout à l'heure, en Angleterre. Il l'a dit à sa mère, la dame qu'il aimait beaucoup, il avait un béga pour madame, il lui a parlé. Et la dame a demandé à accompagner madame. On dit, ah, comment vous devez suivre ? On est remonté à Turenne. Il s'est fait, il a eu une entrevue avec Louis XIV, il a dit, vous avez parlé. Il était maréchal général des armées. Vous avez parlé. Vous n'auriez pas dû. Et c'est vraiment une préoccupation, probablement dans toute structure. Hein, le patron de Coca-Cola ou le patron d'Apple, il doit aussi tenir son grand secret. Et vous voyez, on voit bien comment c'est... Ça a été très, très pensé. Et par exemple, vous voyez Torcy, qui est le ministre des Affaires étrangères, le voici, hein, Torcy, pour revenir en arrière, Torcy ne travaillait pas chez Madame de Maintenon. Et Saint-Simon note, et ne la voyait comme jamais. Torcy avait des postes, c'était par lui que c'était le secret des postes, le cabinet noir qui ouvrait les conférences, ont passé au roi tête à tête. Et le roi souvent emportait des morceaux à lire à Madame de Maintenon, mais cela n'avait point de suite. Vous voyez, on distingue parmi les ministres ceux qui parlent en tête à tête avec le roi. Parce que beaucoup de ministres travaillent chez Madame de Maintenon, dans l'après-midi. Et donc, elle est là. Et elle l'a raconté elle-même. C'est-à-dire, si l'appartement est un peu grand, le roi lui dit parfois d'approcher. Donc elle écoute ce que dit le ministre. Puis parfois, le roi, mais c'est peut-être assez désagréable, hein, lui dit... Vous allez faire, alors elle va faire sa prière au fond de l'appartement. Mais quand on lui demande d'écouter, c'est bien qu'on veut avoir son avis. Hein, on ne lui fait pas écouter les affaires si c'est pas pour. Et ça, c'est bon, vous voyez, ça, non seulement peut-être elle est mariée, mais en plus, elle participe à la décision de l'État. Et en particulier, vous savez, une des grandes décisions du règne, c'est l'acceptation du testament du roi d'Espagne. Bien, on a dit que ça s'était passé dans la chambre de Madame de Maintenon. Et Saint-Simon s'étrangle. Ça veut dire qu'elle a participé à cette décision qui a bouleversé l'Europe. On lui a demandé son avis. Elle a écouté. Et Louis XIV qui avait fait, vous voyez, il lui demandait son avis, comme à une personne de bon sens. Nous trouvons ça naturel. Le mémorialiste trouve ça absolument aberrant. Ça renverse le monde. Hein. Qu'une femme, d'abord, une femme de petite noblesse, ensuite, participe. Elle serait reine. Hein. C'est autre chose. Elle n'est pas reine. Et vous voyez, la Torcy, il échappait au contrôle de Madame de Maintenon. Ouais, le voici d'ailleurs en ami de l'Ordre du Saint-Esprit, dont il était un des officiers. Alors, lui-même, Torcy, a laissé un journal bien intéressant et qui montre justement combien tout était un peu codé. Hein. Voilà, je vous donne quelques exemples, mais tout ce journal est plein de mystères, on ne comprend pas finalement. Le roi me donna un ordre secret à son lever au sujet de MLDDO. C'est Monsieur le Duc d'Orléans, c'est son neveu, c'est le futur régent, hein, qui n'était pas totalement dans les papiers du roi. Quelques jours auparavant, Sa Majesté avait parlé au Conseil comme bien instruite de plusieurs particularités que le public croyait qu'elle ignorait. En même temps, elle en avait apporté le secret. Je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit. Probablement, soit des frasques du futur régent, vous savez, qui avait un petit goût pour les dames. D'ailleurs, je vous le montre ici avec Madame de Parabère. Ici, probablement, c'est lui, moins habillé. Vous voyez, ça plaisait moins à Louis XIV que son neveu se montre un peu comme ça. Bon, on ne sait pas exactement, mais... en tout cas, vous voyez, Louis XIV lui-même dit que le public sait les choses
et que le public pense qu'il ne les connaît pas. Et c'est compliqué. Hein.
Alors ça peut être autre chose. Ça peut être le fils d'Orléans s'est mêlé avec la femme d'Espagne.
Peut-être que c'est ça.
Regardez un peu plus loin. La cour de Madrid gardait le secret sur les résolutions qu'elle avait prises pour persuader enfin aux ennemis qu'elle n'était plus dans la dépendance de la France et que les intérêts de l'une et de l'autre se séparaient entièrement. Et donc là aussi, on se heurte au secret de la cour de Madrid. On apprit donc par un correspondant obscur mais bien instruit que. Vous voyez, on a des informations, des rumeurs, des jeux de secrets, et ça fait partie du jeu politique finalement. Encore, là on parle d'une expédition, hein, c'est autour, vous le voyez, du roi, il y a deux cours, à la fin du règne de Louis XIV, il y a une cour à Versailles et une cour à Saint-Germain-en-Laye, puisqu'il y a le fils du roi d'Angleterre, Jacques II a été détrôné, son fils a été reconnu par Louis XIV comme roi, et voici sa mère, la très ravissante Marie de Modène. Eh bien, on prépare un débarquement en Écosse, voilà une décision importante. Débarquement en Écosse. Hein, ça demande des préparatifs. Il faut le plus grand secret. Si les Anglais sont au courant, ça ne marchera pas. Et voyez, le roi t'a un conseil. En le commençant, Sa Majesté dit que le roi d'Angleterre, celui qu'on vient de voir, et la reine sa mère, parlant à Madame de Maintenon de l'entreprise d'Écosse, avait dit qu'il savait qu'on craignait le peu de secret de Saint-Germain, de la cour de Saint-Germain. Mais qu'ils seraient contents l'un et l'autre que Sa Majesté voulût faire les préparatifs pour cette entreprise, leur en ôter la connaissance et avertir le roi d'Angleterre la veille qu'il faudrait qu'il parte pour s'embarquer. Vous voyez, à Saint-Germain, on a tellement peur des espions qu'on dit ne nous avertissez de rien. Vous préparez tout et quand vous nous direz, le roi partira, le roi d'Angleterre partira pour faire le débarquement. Vous voyez combien, c'est vrai qu'un débarquement, ce n'est pas une affaire très simple. Alors, ça m'amène aussi à parler de l'écriture. Il y a d'innombrables papiers signés Louis XIV, hein, comme aujourd'hui, signés du président de la République. La question est de savoir, mais combien a-t-il pu écrire ? Je n'en sais rien. Il dictait, même les billets les plus intimes. Il y a des échanges, par exemple, de billets doux entre lui, je crois, Mademoiselle de la Vallière. Je crois que ça passait tout par le duc de Saint-Aignan, qui écrivait les billets de Mademoiselle de la Vallière et les réponses du roi. C'est-à-dire qu'il écrivait les deux choses, parce que l'un et l'autre, ça n'avait pas envie d'écrire, ne savait pas écrire des billets doux, d'amour. Vous voyez, c'était fait, spécialiste du billet d'amour. Et alors, pour les lettres officielles, en particulier les lettres qui doivent être de la main du roi, c'est-à-dire par exemple, quand il écrit au roi d'Angleterre, c'est forcément de sa main. Il ne doit pas y avoir un scribe. Parce que c'est une lettre très pauvre, ou pape, par exemple. Ça doit être forcément ça. Et donc, il y avait un secrétaire, on appelle ça un secrétaire de cabinet, et l'un d'eux avait la plume, et voyez, Saint-Simon s'y tremble. Avoir la plume, c'était être faussaire public, et faire par charge ce qui coûterait la vie à tout autre. Cet exercice consiste à imiter si exactement l'écriture du roi, qu'elle ne se puisse distinguer de celle que la plume contrefait, et d'écrire en cette sorte toutes les lettres que le roi doit ou veut écrire de sa main, et toutefois n'en prend pas prendre la paix. Et voici d'ailleurs celui qui a eu pendant toute sa vie la main, la plume, hein, jusqu'à sa mort. Il a déjà en temps de Mazarin, hein, il travaillait, il écrivait à merveille à la façon de Louis XIV. Et j'ai trouvé un moment très amusant où Louis XIV recopie une lettre, je ne sais, à l'empereur probablement, donc on lui a fait un brouillon, hein, comme on fait aux enfants, donc il recopie de sa main la lettre à l'empereur, et la chasse va partir. Ou, je crois que c'est la chasse. Il dit, bon, Rose, vous terminerez ma lettre. Hein, et Rose dit, j'ai repris la lettre, vous voyez, la lettre que lui-même avait préparée, que le roi devait écrire, et bien c'est Rose qui la termine, parce que le roi n'a pas le courage de l'écrire jusqu'au bout. Et je crois que Rose se faisait payer certaines lettres. Et vous voyez, c'est des lettres de nomination. Enfin, je ne suis pas sûr que. Vous voyez, il n'y avait pas eu des. Vous voyez, quand le roi dit je veux, on donne. Alors, ce qui prouve également, vous voyez, que tout ça amène à beaucoup de mystères. Alors, je vous montre également les prisons d'État, c'est-à-dire que plusieurs forteresses deviennent des prisons d'État. Le Mont-Saint-Michel, par exemple, en particulier pour tous ceux qui écrivent un peu trop. Hein, les hommes de lettres qui disent du mal des ministres. Alors on ne va pas les tuer, on va pas les, ils n'ont fait qu'écrire. Et souvent, alors, s'ils offensent la personne du roi, là il n'y a pas de pardon. Hein, et autant d'actes d'autrui, je crois qu'on a. Alors certains ont été libérés dans un dernier moment par la foule, mais on ne peut pas dire du mal. Mais en revanche, si on se moque d'un ministre, ou d'un évêque, par exemple, l'archevêque de Reims, qui était de la maison de Louvois, il y a un libelle qui s'appelle le cochon mitré. C'est pas trop gentil, hein, d'appeler un évêque cochon. Bon, on l'a mis au Mont-Saint-Michel. Et puis la Bastille devient vraiment la prison d'État. Alors c'est une prison de luxe, selon certains de mes collègues, hein. C'est pas les prisons des pauvres, c'est vrai. Mais comme je vous l'ai dit, on oublie les gens, hein. C'est la formule. On n'a pas de preuves pour lui, oubliez-le jusqu'à la paix. Alors certains sont pas maltraités, mais les familles ne savent même pas où ils sont. Ils ont disparu un jour, et on ne sait pas où ils sont. Et les pauvres prisonniers essayent d'envoyer des pigeons, hein, ou des moyens, des armes, des moyens pour faire savoir à leur famille qui sont à la Bastille. Et généralement, pour ceux qui sont pour raisons politiques, dont vous voyez qu'ils ne sont pas coupables, qui sont simplement suspects, eh bien on les libère à la paix. Au moment de la paix d'Utrecht, en gros, tous ceux qui avaient été accusés d'espionnage sont libérés. S'ils avaient prouvé qu'ils avaient fait l'espionnage, on les aurait punis. Et là, c'était sans rémission. Mais ceux dont on ne savait pas s'ils étaient bavards, s'ils étaient curieux, s'ils étaient un peu fous, là, on les maintient, on les oublie jusqu'à l'oubli. Et en même temps, vous le voyez, pour l'étranger, en particulier pour les pays étrangers, la Bastille commence à apparaître comme un symbole de la monarchie absolue. Et il y a un livre qui va apparaître, il va s'appeler L'Inquisition française, et qui est un livre formidable. Qui raconte beaucoup d'histoires de tous ces gens emprisonnés, de ces prisonniers, comment ils sont arrivés là, par quel hasard. C'est un livre passionnant, et comme par hasard, ça recoupe les archives que nous avons. Et moi, je soupçonne le lieutenant général de police d'avoir été très ami de cet écrivain et de lui avoir fait des confidences. Et vous voyez, c'était un écrivain qui a raconté ses vies rocambolesques. Alors, il a fui à l'étranger parce que. Lui aussi avait fréquenté les bureaux, il a finalement été libéré, il a fui à l'étranger, il a publié ce livre, qui est devenu un peu le symbole du despotisme à la française. Et vous comprenez pourquoi, en 1789, l'idée c'est que la monarchie absolue est symbolisée par la Bastille. C'est pas tellement les paysans ou les délinquants qu'on emprisonne. Ce qu'on reproche à la monarchie, c'est de ne pas être libéral, de ne pas donner la liberté de parler, d'imprimer, de discuter. Et les gens qui veulent discuter, on les réduit au silence. On ne les condamne pas, on les réduit au silence. Hein? Prison d'État, inquisition française, vous voyez, c'est ce qu'on considère le pire, l'inquisition espagnole. Hein? On enferme les gens, et puis on les maintient, on les torture, enfin, on les torture pas. On leur pose des questions jusqu'à ce qu'ils avouent. Puis s'ils avouent, eh bien, on les liquide. Donc vous voyez, l'inquisition, c'est intéressant. Alors, bien sûr, tous ces secrets, ça sert essentiellement pour ce qui est la diplomatie. Alors, je ne veux pas insister, mais le temps Louis XIV était marqué par plusieurs traités secrets que l'on n'a connus finalement qu'au XIXe siècle. Et des grandes négociations qui finalement aboutissent à des traités comme en 1668, un traité de partage du monde. L'empereur et le roi de France ont envisagé la mort du roi d'Espagne, ils se disent, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Alors bien sûr, le traité dit c'est affreux, nous sommes obligés de penser à la mort de notre cher beau-frère et cousin, roi d'Espagne, on est bien obligés d'y penser. Alors on va se partager tous ces biens. Alors la France aurait eu en particulier les Pays-Bas, les Philippines, ça serait charmant, hein, ça serait devenu français. Mais une sorte de partage du monde, il a survécu, on n'en a plus parlé. Alors on savait bien, dans Voltaire on parle un peu, on savait bien qu'il y avait une sorte d'accord entre larrons. Mais on n'a jamais eu le papier. Au 19e, on s'est aperçu qu'il y avait une grande négociation menée par un envoyé de petite noblesse, et c'est pas le duc qui a négocié ça. C'est le chevalier de Grémonville, c'est un chevalier de Malte, par un italien. Alors, il a été reçu à Vienne par tous les premiers ministres, par tous les princes, et puis il a négocié pas à pas, là, et on a ce traité de 1668. En 1670, il y a des traités secrets avec Charles II d'Angleterre. Alors, officiellement, enfin, il y a une négociation, les gens savaient bien qu'il y avait une négociation, il y a eu une guerre après. Bon, c'était, mais ça couvrait une autre négociation, c'est que Charles II avait dit, bien, je me convertirai au catholicisme si vous me donnez beaucoup d'argent.
c'est assez désagréable pour les Anglais, qui ont coupé la tête d'un roi pour ça. Et vous comprenez qu'il soit resté très secret. Et d'ailleurs, Jean-Christian Petit-Fils dit peut-être que le masque de fer, c'est justement un des valets qui est au courant de cela. Vous comprenez, un roi qui accepte de changer sa religion pour une somme fabuleuse, ça fait désordre. Hein, on coupe la tête pour moins que ça. Hein. Les Anglais, vous voyez, Charles Ier n'avait pas fait ça. Et une fois qu'on l'a payé, cet argent à Charles II, puis une fois que la guerre avec l'Hollande a été terminée, il n'en a plus été question. Hein, les engagements ne tiennent que pour ceux qui y croient. Hein, il avait eu l'argent. Vous voyez, pour les Anglais, c'est quand même très choquant. Et quand vous lisez les historiens anglais d'aujourd'hui, ils abordent le sujet avec beaucoup de gêne que leur propre roi est envisagé comme ça, alors qu'ils avaient fait la réforme, alors que le protestantisme est un des fondements de l'Angleterre, ça les gêne. Donc vous voyez, l'importance du secret en matière politique, en matière diplomatique, la France est la vache à lait de l'Europe. Elle paye beaucoup de pays étrangers, et tout au long de l'époque moderne. Nous avons eu un colloque à Lund, en Suède. À la Suède, les Suédois, ils aiment beaucoup les Français, et beaucoup le roi de France, parce que c'est de l'argent. Et quand on ne les paye plus, ils sont en train de dire, tiens, il n'y aurait pas quelqu'un d'autre. Et c'était l'habitude qu'ils ont prise dès la guerre de 30 ans, et c'est étonnant. Ils ont pris l'habitude de l'argent français, et beaucoup d'autres princes, c'est la même chose. Alors, également, un autre trait qui m'a beaucoup frappé, quand j'ai étudié le secret, j'ai voulu en parler, mais vous connaissez tous le masque de fer, c'est pas qui c'est, comme je vous le dis, mais l'un des candidats, c'est un diplomate de Padoue. Le roi de France envisageait de prendre une ville qui s'appelle Casale Monferrato, qui appartenait au duc de Mantoue. Et cette affaire était négociée par un dignitaire mantouan qui s'appelait Mattioli. Et Mattioli, semble-t-il, a vendu la mèche de la négociation. Vous voyez, il était question que le duc de Mantoue livre la ville de Casale à la France, qui lui donnait donc, vous voyez, une sorte de grosse passe-forte très importante dans l'Italie. Mais vous voyez, comme ça. Et Mattioli à livrer le secret, s'il y a des princes italiens, on dit quoi, c'est pas bien, et ça a cassé la négociation. Et Louis XIV, le gouvernement français, a enlevé Mattioli. Peu importe savoir si c'est le masque de fer, en tout cas, Mattioli a été enlevé. Il a disparu de la circulation. Et il a été enfermé à Pignerol, et on ne l'a jamais plus revu. Alors, les historiens disent, mais c'est pas le masque de fer, parce que le masque de fer est plutôt un valet, alors que là, vous avez un ambassadeur, pas rien, qui a été reçu par Louis XIV. Donc, ça ne correspond pas. Le masque de fer, c'est plutôt un homme de moyenne condition. C'est pas un grand seigneur, mais c'est pas non plus un pauvre, mais c'est plutôt le genre, le niveau des valets de chambre, ce qui était très bien, c'est plutôt des bourgeois, des grands bourgeois. Mais Mattioli, il est mort en prison quelque part. Dans une des prisons d'État, probablement dans les Alpes, soit exil, mais il a disparu. J'ai trouvé un autre cas très, très symbolique et très désagréable. Un patriarche arménien à Constantinople qui s'appelle Avedik, au début du XVIIIe siècle. Alors les Arméniens se chipotaient entre eux, il y avait beaucoup de groupes, les jésuites, les capucins les utilisaient un peu, donc il y avait des scissions entre Arméniens, et le pouvoir turc disait, ce sont des querelles de chrétiens, nous reconnaissons ceux que vous voulez bien nous présenter, et Sévili aboutit à l'exil d'un de ces patriarches, qui s'appelait Avedik, qu'on envoie à Chypre. Et l'ambassadeur de France, probablement, qui lui était un peu dérangé, qui s'appelait Marc Ferriol, qui finalement à la fin va être enfermé dans l'ambassade, qui était un exalté, mais probablement aussi des bons pères hein, derrière, on pense bien que les jésuites ont dû intervenir. Et sur le chemin qui le conduit à Chypre, eh bien le patriarche, vous voyez, le patriarche est enlevé et conduit en France. Il passe par Messine et il arrive à Marseille en 1706. Et en fait, le gouvernement français a découvert ça. Il se trouve avec sur les bras un patriarche enlevé, secret, très embarrassant. Alors on l'a, à Marseille, on s'est interrogé, puis alors finalement on l'a envoyé au Mont-Saint-Michel. C'était loin, il ne parlait pas un mot de français, personne ne le comprenait. Et il a fallu, alors on essayait de trouver des gens qui aient vécu un peu, qui parlé sa langue, les voyageurs. Alors, progressivement, on a trouvé des gens qui parlaient avec lui, et on l'a trouvé très sympathique. Et alors, il disait, mais moi j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup du français, j'aime moins les Anglais. On disait, mais merveilleux, c'est pas très grave. Vous voyez, on l'avait sur le dos. Si on publiait ça, on disait, ben voilà, le roi de France kidnappe des gens. Ça fait, c'est très désagréable. Et donc finalement, on s'est résolu à le garder. On l'a envoyé à la Bastille, alors on le traitait bien. Hein, mais alors, vous voyez, c'est quand même très compliqué. Et finalement, il a laissé entendre qu'il se convertirait bien au catholicisme. Très bien. Et il s'est converti. On l'a emmené chez le cardinal de Nora, qui est archevêque de Paris. Et progressivement, on l'a libéré. Et on l'a fait venir près de Saint-Sulpice, très discrètement. Et il est mort à ce moment. Vous voyez ? Et à un moment, on avait proposé au pape, vous n'en voulez pas. Le pape n'a pas répondu. Et le pape n'allait pas se mettre sur le dos l'idée qu'il avait pris un grand dignitaire de l'église arménienne. Alors vous le voyez, c'est un monde très particulier. Et en quelque sorte, la cour elle-même est un lieu où on cherche tous ces mystères. Mais on cherche aussi à connaître et à agir. Vous voyez, tout ça, c'était un peu passif. Eh bien, la cour, c'est un lieu, moi, j'ai souvent dit que c'est un peu une opinion publique en miniature. La cour de France rassemble des hommes de toutes origines. Vous avez des grands seigneurs, qui sont militaires, qui sont maréchaux. Les capitaines des gardes, par exemple, sont des maréchaux. Des ducs. Mais vous avez aussi les valets de chambre, qui sont des grands bourgeois, enfin des bons bourgeois, ou parfois... Vous avez beaucoup de personnels qui sont des petits bourgeois. Les ministres, c'est la petite bourgeoisie anoblie, mais alliée aux plus grandes familles du royaume. Hein, les filles de Colbert, les trois sont duchesses. Donc, il y a un certain mélange social. Vous avez tous les cardinaux, les évêques, les abbés, donc aussi toute l'Église est présente, enfin, des représentants de l'Église. Vous avez tout ce personnel. Hein, qui s'occupe des chevaux, qui s'occupe de toutes les tâches matérielles, donc des gens du pape. Et Louis XIV, avec eux, était très, très simple. Vous avez, avec ses valets de chambre, ses meilleurs amis, c'était ses valets de chambre. Montand a eu tous ses secrets, en particulier ses secrets amoureux. C'est lui qui conduisait les petites dames. Et tout le monde, toute la France l'a pleuré. Mais il était connu. Quand il est mort, les Français ont dit « Ah, c'était si proche du roi. » Et il tenait sa langue. Et Saint-Simon fait un très bel éloge en disant « il rendait service. » C'est quelqu'un qui n'a jamais utilisé sa familiarité avec le roi pour l'utiliser pour lui. Un jour, Louis XIV lui a dit « Mais vous ne demandez jamais rien pour vous. » Vous voyez, c'est un compliment. Et il lui a donné, je ne sais pas quel emploi pour son fils. Il le donnait pour les autres. Et vous voyez, c'était donc tout un monde. Et en particulier, la cour, c'était le lieu où l'on surveillait tous les emplois importants, les emplois de gouverneur, les emplois d'ambassadeurs, les emplois d'évêques, et puis tous les emplois de cour. Et par exemple, je vous cite cette belle lettre, ce beau passage autour de la formation de la maison de Marie Adélaïde, la fin du règne. Eh bien, sa maison fut plus longtemps à être déterminée, la cour était depuis longtemps sans reine et sans dauphine, toutes les dames d'une certaine portée d'état et de faveur s'empressaient et briguèrent, et beaucoup aux dépens les unes des autres. Les lettres anonymes mouchèrent, les délations, les faux rapports, tout se passa uniquement là-dessus entre le roi et Madame de Manon, qui ne bougeait du chevet de son lit pendant toute sa maladie, excepté lorsqu'il se faisait voir. Vous voyez, on en voit bien, dans sa maladie, il y a des moments où il se fait voir quand même. Et qui était la plupart du temps seule. Elle avait résolu d'être la véritable gouvernante de la princesse, de l'élever à son gré et à son point, de se l'attacher en même temps assez pour en pouvoir amuser le roi sans crainte qu'après le temps de poupée passée, elle lui put devenir dangereuse. Hein, le temps de poupée passée, c'est joli comme formule, vous voyez, c'est l'idée que c'est la future reine de France, Madame de Maintenon, qui est une institutrice née, elle avait beaucoup d'éducation, elle a voulu refaire sa chose. Hein, et elle a choisi les personnes, vous voyez, en particulier la dame d'honneur, qui va être la femme la plus importante, on prend une femme de pas trop d'envergure. Madame de Maintenon, c'est elle qui doit
dirigée, pas la dame d'honneur.
La dame d'honneur, c'est la duchesse du Mude. Donc, vous le voyez, c'est important, et ces nominations sont essentielles. Le duc de Saint-Simon, qui nous a laissé cet immense et magnifique témoignage sur la cour de France, on ne rêverait pas à Louis XIV, à la cour de France, à Versailles, s'il n'y avait pas eu ce monument de la littérature française, finalement, qui est un des livres du XVIIe et du XVIIIe siècle, puisque c'est un livre du XVIIIe siècle, qui a survécu et qu'on lit le plus fréquemment aujourd'hui. Lui-même, il était marginal. Il n'a jamais eu aucun emploi. Alors, il a vécu à Versailles. Généralement, il vivait chez son beau-père, qui était maréchal. Donc, il vivait, vous voyez, un peu en dehors. Alors, on a parlé de lui pour être ambassadeur. Mais Louis XIV ne l'aimait pas trop parce qu'il était bavard. Et parce qu'il se mêlait un peu d'affaires politiques. Et ça, Louis XIV lui avait dit, on dit, il faut parler. Et ça, Louis XIV n'aimait pas les gens qui parlaient. Et alors, il a raconté lui-même, on a dit, il faut un ambassadeur à Rome. Alors Louis XIV a pris un petit calepin qu'il avait, il a dit, il faut un duc. Et alors, ils ont passé la liste des ducs. Alors, il y avait ceux qui étaient trop vieux, ceux qui n'étaient pas... On dit, duc de Saint-Simon, c'est possible. Louis XIV a dit, il est jeune, mais il est bon. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit, mais il n'était pas assez riche. Donc, on a envoyé des ministres regarder ses comptes. Il dit, je n'y connais rien, je ne savais pas, moi je n'ai jamais suivi mes comptes. Donc j'ai demandé à mon intendant d'apporter des registres. Et alors on a regardé, on dit, il n'est pas riche, mais il pourra tenir le coup d'une ambassade. Et puis on lui a dit, surtout, quand vous serez à Rome, vous montrerez toutes vos dépêches à votre femme. Et quand vous travaillerez, ce sera toujours avec votre femme à vos côtés. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à la cour de France, c'est elle qu'on connaissait, qu'on respectait. Et si bien que pour la duchesse de Berry, c'est elle qu'on va nommer dame d'honneur. Une jeune princesse qui peut devenir reine, on nomme une femme de tête, une femme de confiance, une femme de secret. Et Dieu sait, si la duchesse de Berry, ce ne sera pas facile. Et là, ça ne se dit rien. Il fait quelques allusions. Il semble que cette jeune princesse ait voulu se faire enlever, par exemple. C'est un peu gênant. Si elle buvait, elle tombait par terre. Gênant. Il faut que rien ne se dise. Et ça, Mme Saint-Simon, vous voyez, elle tenait. Et Saint-Simon ne dit pratiquement rien là-dessus. On le sait un peu, un peu, mais pas trop. Alors, il y a un autre aspect dont je voudrais vous parler, et que j'ai découvert, ce sont les affaires financières. La cour, c'est un lieu où l'on fait des affaires. Non seulement il y a les fonctions, tout ce qu'on peut réclamer, une abbaye pour son fils, un évêché pour son frère, un gouvernement pour son cousin, mais également c'est un lieu où on essaye de faire de bonnes affaires. C'est une enquête que j'ai trouvée autour d'une dame qui s'appelle Philippette Pochon de Rosemain, qui épousait un gentilhomme d'Auvergne, et j'aurais trouvé par mes étudiants. Son mari était capitaine ingénieur, il a travaillé en Espagne, en tout cas à Majorque. Donc vous voyez, modèle de la gentilhommerie française, un homme qui sert le petit-fils du roi, je me demande s'il n'est pas allé en Amérique aussi, en tout cas vraiment modèle. Et elle s'est occupée de faire des affaires. C'est-à-dire qu'elle faisait passer des avis pour des entreprises, des opérations, des bonnes idées. On appelait ça des donneurs d'avis. C'est-à-dire qu'on essaye d'obtenir de l'État qu'il s'engage dans des entreprises intéressantes, qu'on juge intéressantes. Vous voyez, c'est d'avoir des idées. Et à la base, il y a celui qui a l'idée. Il y a celui qui transmet. Et on vise généralement une personne de la cour de haut niveau qui pourra faire passer l'idée à un ministre. Et bien sûr, on se réserve des sommes, des pourcentages. Celui qui a eu l'idée aura une partie importante. Madame de Rosemain, qui sert d'intermédiaire en quelque sorte, elle aura un pourcentage. Et la grande dame, parce que c'est souvent des dames, qui fera passer le message au ministre, elle aura aussi un pourcentage. Alors, c'est des choses très... Je vous donne quelques exemples. Alors, vous voyez, les policiers qui ont trouvé ça, en n'en revenait pas. Hein. Alors, vous voyez, par exemple, on avait supprimé les comédiens italiens, d'ailleurs, c'est Madame de Maintenon. Hein. Ils avaient fait une pièce contre Madame de Maintenon, on les avait supprimés. Alors, on propose l'établissement d'une nouvelle troupe de comédiens italiens. Et on passe d'abord par Madame de Maintenon. Elle ne donne pas suite. Ensuite, on passe par le duc de Sully, qui en parle au roi. Le roi lui donne une assurance verbale que ça l'intéresse. Ça tombe. On n'en parle plus. On passe par la duchesse de Sully, les femmes, et la princesse de Lillebonne, qui est partout. De la maison de Lorraine, vous voyez, elle appartient à une maison souveraine, hein, les princesses de Lorraine. Ça marche pas. Alors, finalement, on demande au gendre de Lully, qui est maître d'hôtel du roi, d'essayer de faire passer le projet. Donc, vous voyez, c'est des sortes de moyens de faire passer un autre projet. Une halle couverte pour le blé et la farine, à Paris. On essaye d'intéresser l'État à cela. Des manufactures. Créer des manufactures en Provence. Et on essaye de convaincre un ministre de donner l'autorisation et surtout l'aide de l'État en ce moment. Alors, parfois, c'est beaucoup plus simple, hein. Justement, donc plutôt que ces deux halles, on passait par le gouverneur de Fontainebleau qui était en Montmorin de Saint-Hérène. Il aurait eu le tiers des profits. Et les associés de la Dame de Rosemar auraient eu le reste. Vous voyez, c'est des entreprises, des idées, c'est pas mal maintenant. Alors souvent, ce sont des impôts. Alors, c'est plus gênant, parce que c'est le bon peuple qui va payer. C'est-à-dire, vous voyez, c'est un peu une privatisation. Enfin, nous avons nous nos parkings, hein, nos autoroutes que nous payons. Hein, ce sont bien les entreprises privées. C'est un peu la même chose. Hein, on donne, ce sont des intérêts privés qui passent par les intérêts. Et voilà, le lieutenant général de police d'Argenson écrit au secrétaire d'État Jeanfrin, je puis dès à présent avoir l'honneur de vous dire qu'il y a peu de personnes à la cour avec qui cette bonne dame n'ait eu des relations de toutes espèces. Et ben, c'est dur, hein. Alors, et vous voyez un peu ce que disent ces policiers. Hein. Elle se serait adressée à la première personne qui lui serait tombée sous la main, sachant bien qu'il n'y en a aucune à la cour qui refuse de gagner 50 pistoles quand elle trouve l'occasion. Et même qu'il s'emploie tout de son mieux pour y réussir. Vous voyez, ce sont des ducs, des duchesses, des princesses. La Rosemain pleure toujours et croit qu'à sa sortie de la Bastille, les dames de la cour ne voudront plus faire d'affaires avec elle. Ce qui la met dans une espèce de désespoir et fait ainsi connaître que la passion de l'intrigue et du savoir-faire n'est pas moins violente que toutes les autres. Vous voyez cette idée que on est à la cour pour gagner aussi de l'argent. Ça coûte cher d'être à la cour. Il faut avoir des grands habits, il faut avoir des bijoux, il faut avoir un carrosse, il faut avoir une maison en ville, un château à la campagne. Ça coûte des fortunes. Donc il faut trouver des moyens de compenser tout ça. Et alors l'étonnant, c'est qu'elle finit par incriminer les ministres eux-mêmes. Elle dit, mais chez Pontchartrain, tout le monde fait de l'argent. Hein? Et elle cite alors des. Vous voyez, l'enquêteur de notes, qui est lui-même de la famille de Pontchartrain, vous voyez, il parle souvent la même. Vous voyez, c'est un Pontchartrain qui est mêlé à ses enquêtes. Elle ajoute que la plupart des domestiques de M. de Pontchartrain se mêlent de procurer des emplois pour de l'argent. Alors, elle parle beaucoup de femmes. Alors, à propos d'une demoiselle de Cri, qui est au service de Madame la Chancelière, qu'elle fait plusieurs affaires dans les bureaux de M. Pontchartrain par l'entremise des commis, qu'il est de notoriété publique, qu'elle a fait une fortune considérable par cette voie, qu'elle connaît tous les commis avec une grande familiarité. Commis, c'est les hauts fonctionnaires. Il y a une demoiselle de Florac qui a beaucoup de crédit dans les bureaux de M. Pontchartrain et qui lui dit, tant à Fontainebleau qu'à Versailles, qu'elle a tout pouvoir sur les collaborateurs du ministre. Or, le type qui reçoit cette lettre-là, c'est le fils de Pontchartrain. Ils doivent bien être au courant de ce qui se passe. Et c'est vrai qu'il n'avait pas la réputation d'être d'une vertu financière totale. Hein. Et bon, il circule, vous voyez, de grosses affaires sur les blés. Mais vous voyez qu'aussi, on utilise ces grandes dames. Hein, ces princesses, les femmes hein, jouent un rôle. Vous voyez, dans ce moment-là, les femmes n'avaient pas. Alors, c'est pas un rôle public, c'est un rôle secret. Comme pour Madame de Maintenon. Et alors, finalement, on va l'enfermer, la pauvre, on va l'enfermer, et à un moment, on dira personne ne la réclame. Alors, si on la fait sortir, elle va devenir soit folle, soit mendiante. C'est triste hein, pour une personne qui a côtoyé tout le monde, qui s'est quand même... Alors, en même temps, vous le voyez, il y a une sorte de... S'il y a sacralisation du secret, il y a du côté du roi l'idée qu'il doit être l'homme le mieux informé, que tout doit aller à l'État. Et c'est un extrait, un bel extrait des mémoires hein, de Louis XIV qui ont été écrits probablement par des collaborateurs, par des écrivains, mais je pense qu'il a lu ses propres mémoires, Louis XIV. Hein. Peut-être en a-t-il lu des passages, ou en a lu des passages, mais enfin, au dernier moment, on les a sauvés. Vous savez, c'était sur la page de garde des mémoires à la Bibliothèque nationale, on dit très précisément qu'au moment où il voit la mort arriver, il fait brûler tous ses papiers, et toujours Madame de Maintenon avait près d'elle le mari de sa nièce, Noailles, qui deviendra le maréchal duc de Noailles un peu plus tard, qui dit sire, ne brûlez pas ses mémoires. Et donc, sur le manuscrit de la BN, on a ce document, a été sauvé grâce à l'intervention de Monseigneur le duc, le maréchal duc de Noailles. Et donc, c'est un document essentiel. On donne beaucoup d'exercices aux étudiants là-dessus, qui est un très beau document, qui est censé dire finalement le sentiment du roi au début de son règne. Et voilà ce qu'il écrit. Tout ce qui est le plus nécessaire à ce travail, le roi, est en même temps agréable. Car c'est en un mot, mon fils, avoir les yeux ouverts sur toute la terre, apprendre à toute heure les nouvelles de toutes les provinces et de toutes les nations, le secret de toutes les cours, l'humeur et le fait de tous les princes et de tous les ministres étrangers, être informé d'un nombre infime de choses qu'on croit que nous ignorons, pénétrer parmi nos sujets ce qu'ils nous cachent avec le plus de soin, découvrir les vues les plus éloignées de nos propres courtisans, leurs intérêts les plus obscurs qui viennent à nous par des intérêts contraires. Je ne sais enfin quel autre plaisir nous ne quitterions point pour celui-là si la seule curiosité nous le dotait. Vous voyez, c'est une sorte de jubilation de l'information, une sorte de maître de l'information et de, finalement de tenir les secrets de tous les sujets. Vous voyez, c'est aussi un projet un peu fou, qui est peut-être lié aussi à la relâche absolue. Donc, en même temps, je vois que le temps passe, Louis XIV était aussi un homme de confiance, de confidence. Il y a quelques anecdotes qu'on trouve, je ne vois qu'une. C'est-à-dire que Louis XIV gardait le secret des autres. Si on lui confiait un secret, il le gardait. Je vous cite une anecdote de Saint-Simon, qui ne sait pas de qui il s'agit. Il dit l'aventure fameuse d'une femme de nom. Et cette histoire a été racontée par Louis XIV, qui a dit « Je la raconte parce qu'on ne pourra jamais deviner de qui il s'agit. » Et alors, c'était une grande dame qui demande en grâce au roi une audience secrète dont qui que ce soit ne puisse apercevoir pour l'affaire du monde la plus importante. Elle se confie au souverain comme au plus honnête homme de son royaume. En fait, elle est enceinte et son mari doit rentrer. Et ça fait plus d'un an qu'elle n'a pas vu. Alors, vous devinez bien que c'est un peu gênant. Alors, Louis XIV lui conseille de vivre plus sagement à l'avenir et promet de retenir son mari à la frontière aussi longtemps que nécessaire. Il convoque donc le ministre de la guerre, Louvois, et lui ordonne de refuser à l'époux tout congé. Et tout, il doit être présent à son poste qu'il lui a consigné pour commander tout l'hiver. Vous voyez, c'est de l'ordre du général. Hein. C'est pas... Si elle a pu accéder à Louis XIV comme ça, à la première demande, c'est pas rien. Alors, le ministre est très surpris, parce que c'est une brimade. Encore plus le mari, qui ne comprend pas pourquoi on le retient à la frontière, alors qu'il est impatient pour sa chef femme. Mais il fallait obéir à la lettre et sans demander pourquoi. Vous voyez, c'est Louis XIV qui a raconté ça beaucoup plus tard. Et il y a eu également, alors ça on sait, c'est Boileau qui raconte ça parce qu'il l'a trouvé dans d'autres sources, ça touche la maison de Cossé-Brissac, ce n'est pas rien, je crois que ça a été à un moment le président. Donc, c'est Marie Cossé qui a épousé, qui était maréchal de la Meilleraie, qui devient veuve, et elle épouse secrètement, comme c'était parfois le cas, où une très grande dame pouvait épouser secrètement quelqu'un d'une naissance inférieure. Alors, c'était quand même par l'église, et ça fait toujours la maréchale de la Meilleraie, mais elle vivait maritalement, en fait, avec quelqu'un d'un rang inférieur. Mais c'était un homme très bien, c'était un ancien page du maréchal, qui s'appelait Saint-Ruth, qui faisait une très belle carrière militaire, vous voyez, de plus petite noblesse. Comme elle était maréchale, elle pouvait s'asseoir devant Louis XIV.
si elle devenait malade de sa rhume, elle était obligée de rester debout. Alors bon, elle ne voulait pas rester debout. Donc, elle a demandé à Annecy une entrevue au roi, parce que sa rhume, qui était un très grand soldat, très bon soldat, était un peu violent. Et quand il avait un peu, quand il avait probablement une année de loin, il l'a roué de coups. Alors c'est un peu gênant pour une maréchale de France, voyez, d'être frappée. Alors, elle a vu que son recours, elle avouait sa faiblesse et sa honte, et elle implore la protection de Louis XIV. Il lava la tête à sa rute, donc ça veut dire qu'il lui réprimande dans son cabinet, et lui défendit de maltraiter la maréchale. Rien n'y fait, l'habitude du bâton étant la plus forte. Et alors, elle se plaint de nouveau, et alors là, on a décidé d'éloigner sa rute en lui disant de ne plus revenir chez lui. Et alors, on l'a envoyé, évidemment, on l'a mis à la guerre. Alors il a combattu au Dauphinon, en Vienne, en Savoie, puis en Irlande, et il est mort en Irlande en 1681. Alors, je vois que le temps passe. Hein. Alors, j'aurais voulu vous parler, mais Louis XIV a beaucoup surveillé les mœurs de ses sujets. En particulier, on a le cas du jeune duc de Fronsac, vous voyez, ce sera plus tard le maréchal duc de Richelieu. On le met à la Bastille à 15 ans. Pour lui apprendre la vie. C'est pas ce qui s'est passé. Alors il y a une légende, Ravaisson qui a publié le dossier, il y a une légende selon laquelle il serait allé se coucher dans le lit de la duchesse de Bourgogne, la petite fille de roi. C'était drôle comme plaisanterie, mais alors ça ne prend plus. Alors c'est ce qu'on dit, mais on ne sait pas. Il est possible aussi qu'il ait beaucoup perdu au jeu, il est possible, vous voyez, à 15 ans. Il est possible qu'il. Alors, il a été marié, on peut dire aussi qu'il a un peu, peut-être pas mal fêté sa femme, mais vous voyez qu'il est un peu négligé. Alors, on lui a dit, vous l'avez épousé, et maintenant, il faut que vous la traitiez bien. Et alors, donc, on le met en prison, on met à la Bastille, on le traite avec tous les honneurs du duc, hein, c'est quand même le descendant de Richelieu, l'héritier de Richelieu, hein, c'est pas bien. Il y a deux duchés dans la famille, le duché de Richelieu et le duché de Fronsac. Et alors, on avertit. Le roi de tout ce qui se passe, hein, pour Chartrain, on voit des lettres, on a lu au roi, il demande ses nouvelles, on le met à la Bastille le 22 avril 1711, alors il reçoit des visites, sa femme, des princes avec leur gouverneur, il a des maîtres, on le surveille de près, nous ne lui avons encore rien entendu dire contre les bonnes mœurs. Mais ça veut dire qu'en fait, libertin, c'est le modèle de libertin, vous savez, il a eu un nombre de maîtresses infinies, c'est le plus grand libertin du XVIIIe siècle. Et il prend la variole, il est comme mort. Alors le gouverneur de la Bastille dit, moi je l'ai déjà eu, donc je vais le soigner. Mais c'est un duc, c'est pas rien, c'est quand même ce qu'il y a de plus grand. Et alors finalement il s'en remet, la famille bien sûr l'abandonne, on vient de le voir. Et finalement il demande il est guéri, et c'est son père, le duc demande sa libération, il fait une lettre au roi, et le père approuve, et le roi dit, puisque le roi le demande, puisque le père le demande, le roi veut bien le faire mettre en liberté. Donc vous le voyez, la Bastille, c'est aussi un moyen pour les familles de contrôler les mauvais sujets. Et ça, Michel Foucault l'a bien montré, il a fait un livre là-dessus, hein. Souvent, on a mis à Bastille des gens à la demande des familles, soit pour libertinage, soit pour dette, soit pour parce qu'ils étaient nuisibles, des méchants, violents. Alors, on surveille beaucoup les mauvaises mœurs, ce qu'on appelait les mauvaises mœurs, l'homosexualité. Alors, on l'a mis par exemple en prison un type qui s'appelait Lebel, et on lui a demandé de faire la liste de tous les homosexuels de Paris. Tous ceux qu'il connaissait. Alors, il y a des ducs. Il y a des abbés, pas mal, hein. Les jésuites, l'abbé Servien, et je n'ai pas donné le passage, mais on dit, j'ai lu à sa majesté l'interrogatoire que vous avez fait prêter à Lebel, donc ce garçon qui était un peu un prostitué, le roi veut que vous approfondissiez à fond et en détail toutes les misères et les abominations dont il a commencé à vous parler, vous voyez, avoir tous les noms, hein, pour bien les surveiller, pour bien les contrôler. Parce qu'en même temps, on n'en faisait pas trop de mal. Hein. Il fallait vraiment, c'est un peu comme aujourd'hui, c'est vraiment les affaires de violence. Alors, il y a eu des morts au XVIIIe siècle. On
conduisait des gens à la messe, mais souvent quand il y a eu des violents. Et on lui promet de le faire recevoir à Saint-Lazare. Vous voyez, contre sa parole, on le mettra dans un hôpital, et en fait, souvent, on leur proposait d'aller s'engager dans les armées. Ça faisait des soldats en plus. Alors, également, Louis XIV se met beaucoup des mœurs des prélats. Et donc, Massillon, oratorien, grand prédicateur, très allait à la campagne chez la marquise de l'hôpital. Et il était très assidu. On blâmait leur séjour à la campagne. Et visiblement, le roi trouvait que c'était pas bien. Et on demandait aux domestiques de surveiller un peu ce qui se passait entre Massillon et Madame de l'hôpital. Et vous voyez l'étonnant, et ça je trouve ça très étonnant, c'est que c'est le lieutenant général de police d'Argenson, le chef de la police, qui écrit et qui fait la leçon à Louis XIV. Ainsi, quand il serait coupable, ce que je suis bien éloigné de présumer, je croirais qu'il y aurait beaucoup moins d'inconvénients à dissimuler sa faute qu'à l'approfondir, et qu'il n'apporte pas moins à la tranquillité publique, et par conséquent à l'intérêt du roi, qu'à l'honneur et à la gloire de l'Église, de mépriser cette accusation, qui ne saurait être punie trop sévèrement si elle est calomnieuse, et dont il serait possible d'établir la preuve, dont il serait impossible d'établir la preuve quand il y aurait quelques fondements, ce qui résiste également à la vraisemblance générale et à ma prévention particulière. Vous voyez, c'est dire au roi qu'il est un peu trop curieux. S'il veut avoir une aventure, on ne pourra jamais le prouver. Et si on le prouve, si on veut le prouver, l'Église en subira tous les inconvénients. Tout le monde va écouter Massillon. Et comme par hasard, quand Louis XIV meurt, le régent le fait évêque. Le régent n'avait pas ses préjugés-là. Il attendait d'être évêque, il a été évêque. Donc vous le voyez, c'est aussi. Alors vous le voyez, d'une certaine manière, c'est le secret, c'est un beau sujet. Louis XIV a été secret. Il a donné un tour de secret à la monarchie. Et c'est finalement un des traits de la monarchie absolue. À l'opposé. En Angleterre, à la fin du XVIIe siècle, la presse est pratiquement libre. Ça s'est fait un peu par hasard. Hein, on a cherché une loi, comment encadrer la presse, tout ce qui paraît. Et il y avait des députés, ils ont dit, bah, si on contrôle les publications, quand nous serons dans nos comtés, nous n'aurons que des fausses nouvelles. Il vaut mieux que la presse soit libre. Il y aura des mensonges, il y aura des vérités, mais au moins, on sera averti. Et vous le voyez, au moment où tout se referme finalement dans cette cour de Louis XIV, pour le plus, c'est pas par méchanceté, c'est pas par despotisme, c'est parce qu'on pensait que c'était le meilleur moyen de bien gouverner, ne faisait pas par perversion. Eh bien, au même moment, il y a la Hollande, l'Angleterre, entraient dans une voie de libéralisme politique. Et c'était d'abord autour de la parole publique. Et d'une certaine manière, la monarchie française se trouve en face eh bien, d'un monde qui s'ouvre progressivement, qui commence à parler et qui, finalement, ne s'épanouira qu'au milieu du XVIIIe siècle et les lois changeront au moment de la Révolution, finalement. Voilà, je ne veux pas conclure plus longtemps. C'est tard. Merci à vous.
Mais sur le rôle de Madame de Montespan, la Dame des œillets, mais c'était un monde finalement terrifiant parce que ça allait partout, dans toute la France.
Alors, j'en ai pas parlé, parce que d'abord, Monsieur le Petit-Fils a fait un livre intéressant et très, très fiable à mon avis. Et là, on voit bien, justement, ce qui est d'affaire très... Quand le secret existe, c'est vrai, dans la monarchie de Louis XIV n'est pas un système totalitaire, mais ça y ressemble un peu. C'est-à-dire, quand il y a du secret, finalement, le secret prolifère. Et dans l'affaire des poisons, c'est essentiellement, en effet, des affaires d'avortement. Hein, c'était des avorteuses. Justement, vous voyez, ces dames qui avaient des aventures, elles éliminaient leurs enfants, et les principales, la voisine, c'était une avorteuse. Alors, elle baptisait d'ailleurs les enfants, elle les ondoyait avant de les brûler, après les avoir. Donc, en même temps, elle faisait elle s'était pourvoyeuse de remèdes ou d'aphrodisiaques. Et alors, certaines, probablement, produisaient des poisons. Et il y a eu l'affaire de la Bravilliers, d'abord, une dame, vous voyez, a liquidé une bonne partie de sa famille, et elle était condamnée à mort. Et après, on a eu progressivement l'idée que Paris était plein d'empoisonneurs. Alors, c'est vrai que nous sommes dans un monde comme aujourd'hui, où quand on est désespéré, quand on est malade, on a tendance aussi à chercher les médicaments les plus farfelus. Donc il y avait un monde des médicaments, des produits miracles, pour garder la jeunesse. Donc vous voyez, c'est un monde large, il faut voir ça largement. Et au même moment, d'une certaine manière, la science évolue. À l'Académie, dans les Académies des sciences, vous voyez, on a distingué l'astrologie n'existe plus comme science. Il n'y a plus que l'astronomie. L'alchimie disparaît, il n'y a plus que la chimie. À l'Académie des sciences. Donc vous voyez, progressivement, on a distingué les choses. Et on commence à bien faire la différence entre chimie et alchimie. Donc ces produits, on sait ceux qui sont nuisibles, ceux qui le sont moins. Mais en même temps, il reste beaucoup d'idées, des gens meurent brusquement, on ne sait pas de quoi ils meurent. Bah, c'est l'indigestion, là, tout le temps. Donc on pense que c'est des poisons qu'on les a empoisonnés, surtout dans ce monde de responsabilité. Donc, vous voyez, il y a une part de réalité, femmes criminelles, ça il y en avait, et il y a une part fantasme. Alors, ce qui me paraît vraisemblable, c'est que Louis XIV, tout au long de sa vie, doutait un peu de ses forces, il avait beaucoup d'âme, il avait le cœur d'artichaut, hein, mais il doutait un peu de ses forces. Alors, il avait besoin de produits roboratifs, et il a beaucoup utilisé un de ses valets de chambre, un ancien baigneur qui était devenu son valet de chambre, qui lui fournissait de la cantharide, où il y a des produits assez mal, un peu de ce genre-là, je suppose. Hein. Et probablement que Louis XIV, pour Madame de Montespan, a eu l'usage de ça. Et la voisine, il y a eu un lien à un moment donné entre ce monde des empoisonneurs et l'entourage de Louis XIV. Alors, c'est devenu une sorte d'idée que Madame de Montespan avait commandé les produits elle-même. Et qu'elle les avait utilisés en particulier pour évacuer Mademoiselle de Fontanges, qui était sa rivale. Mademoiselle de Fontanges, elle avait accouché, et ça s'était très mal passé, elle est morte de son accouchement. Vous voyez, le public a pensé qu'elle était morte d'empoisonnement. Et donc, Madame de Montespan, qui était une femme violente, une femme forte, d'ailleurs, mais elle avait envoyé des ours, elle avait fait libérer des ours dans la pardon de Mademoiselle de Fontanges pour démolir son mobilier. Ouais, c'est une attention délicate. Et on ne peut pas imaginer que Louis XIV ait conservé près de lui une femme qui aurait été mêlée à des empoisonnements. Donc je pense que c'est plutôt une sorte de folie qui s'est emparée. Et ça, monsieur Motifis, le monde, je crois que c'est surtout la réunie. L'araignée était un homme pieux, très pieux, et il s'est mis dans la tête que Madame de Montespan était coupable. Et ce que montre aussi Monsieur Petit-Fils, et ça il n'a pas tort, c'est que l'araignée était liée à Louvois, et Madame de Montespan était liée à Colbert. Madame de Montespan, une des filles de Colbert avait épousé le duc de Mortemart, et Madame de Montespan et Mortemart Rochechouart. Donc ils avaient, vous voyez, une lésion très proche finalement.
voyez, la fille de Colbert était la nièce de Madame de Montespan, ce qui est quand même pas mal pour Colbert. Donc vous voyez, il y a probablement aussi un petit peu de rivalité politique. Donc Louvois probablement appuyé d'Arrigny quand il a dit que tout le monde est coupable. Mais c'était affreux. Beaucoup de ces femmes, à mon avis, étaient innocentes, et on les a envoyées dans des forteresses, dans des culbas fausses où elles sont mortes, dans l'humidité. Là. C'était, vous voyez, quand il y avait le sou, ce qui est, d'une certaine manière, ce secret, ce monde du secret, en conclusion, vous voyez, le pire, c'est lorsqu'il y a suspicion. La culpabilité, finalement, quand il y a des preuves, la tête où on pend. On n'aime pas la peine de mort, mais c'est la justice qui passe, la justice du roi. Mais tout ce monde du secret, c'est la même chose pour les espions, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le monde quand quelqu'un est suspect. On ne sait pas quoi en faire. En même temps, on redoute d'en parler, parce que ça peut donner des idées aux autres. Donc il ne faut pas en parler. Donc on aide avec des gens, et finalement, à ce moment-là, l'imagination se déploie, et l'Arrigny, il aurait arrêté tout de suite Madame de Montespan. Vous voyez, parce qu'il était sûr qu'elle était coupable de tout. C'est épouvantable. J'ai une de mes étudiantes qui travaille parce que ça montre aussi ces affaires, et tous ces documents, ça montre aussi quelle était la foi des gens simples. Parce que d'une certaine manière, la superstition existait. Hein, si les gens croient que ça. Mais l'Arrigny, c'est un homme vraiment d'une très, très grande piété. Pour lui, c'est évident tout ça. Il y a eu des messes noires, son beau corps a servi de d'autel, on a communié avec des choses immondes. Tout ça lui paraît très possible. Je veux bien que Mme de Montespan n'ait pas été un ange, enfin, vous voyez, c'est quand même un degré de satanisme et de perversion de tous ordres criminels. Et ça, c'est quand même très difficile à accepter. Et c'est vrai que la mer des poisons. À mon avis, vous voyez, elle nous pose des problèmes parce que justement, le principal enquêteur a été le plus crédule et dur, vous voyez, mais a cru aux preuves le plus. Parce que l'Arrigny, personne ne mettait en cause sa bonne foi, c'était un homme très droit, mais finalement, les historiens se trouvent avec ses dossiers à charge. Et finalement, qu'il a proposé à Louis XIV, et Louis XIV était très embarrassé, vous voyez, donc. A fait ôter une partie de ces documents. C'est ça aussi le problème. C'est que on avait fait une sorte de purge de Paris. Vous voyez, tous les gens qui vendaient les produits illicites, en gros, toutes les avorteuses, tout ça, on avait fait une grande pêche et on les avait enfermés. Mais comme l'enquête ne se finissait pas parce qu'il y avait le cas de Madame de Montespan, l'Arrigny, le gouvernement a dit, mais il faut quand même qu'on raisonne, on a plein de gens en prison dont on ne sait pas s'ils sont coupables ou innocents, il faut bien qu'on commence à les juger. Donc, Louis XIV a dit, la décision qui a été prise, c'est qu'on a ôté la partie qui concernait Madame de Montespan, de manière à ce que les documents puissent être utilisés pour les autres procès. Mais là, on a été féroce, ce que je vous disais, on a envoyé des pauvres. Vous voyez, on retrouve un peu la peur des femmes, des anciennes, c'est un peu les sorcières, au moment, alors c'est plus les sorcières. Ce sont plutôt des. Je crois vraiment que ce sont. Oui, c'est l'avortement. Mais il y a des tas d'anecdotes. Les gens voyaient tomber ça sur eux, et c'était épouvantable. La comtesse de Soissons, qui était là encore, n'était pas un prix de vertu, ni probablement une femme toute simple. Louis XIV, vous voyez, l'a averti un soir, elle était en train de jouer avec ses amis. On l'avertit, demain, on vous arrête. Elle est la nièce de Mazarin, qui est mort. C'est sa nièce. Elle est une fortune considérable. Elle a dit non à ses convives, écoutez, je me retire un moment. Elle est allée dans sa chambre, elle a pris ses bijoux, elle a fait attelé un carrosse, elle est partie. Je crois qu'elle n'est jamais revenue en France. Elle est la mère du prince Eugène qui a vaincu en grande partie les armées françaises de la fin. Vous voyez, le duc de Luxembourg, le maréchal duc de Luxembourg, a été quand même en prison. Il avait un des plus grands généraux. Et mais pourquoi ? Et alors lui, il a été victime de ses collaborateurs qui a pris une de ses signatures, en fait, qui a dû lui faire signer des papiers. Parmi les papiers, il y avait une lettre avec le diable, quelque chose comme ça. Et alors lui, il était furieux, vous voyez, il a dit, je veux être justifié, je demande d'entrer à la Bastille. Ah, trop embêtant.
Il avait remporté des époques. C'est lui qui a, c'est celui qu'on appelle le tapissier de Notre-Dame. Il avait remporté des victoires. Alors bien sûr, beaucoup de ces gens adoraient l'astrologie. Qu'ils n'aient pas été très clairs. Nous regardons bien nos, parfois nos signes, ça arrive. Donc ça vient. Vous voyez, aujourd'hui l'astrologie existe aussi. Et alors ça, qu'on ait voulu savoir les choses et qu'on ait participé à des groupes secrets, probablement, ça a toujours existé. Et c'est pas pour ça qu'on, vous voyez, qu'on empoisonne les gens, ou qu'on assassine des enfants, ou qu'on fait des hosties avec le sang d'enfants morts. C'est bien ça l'horrible chose. Vous voyez, alors cette affaire de poison permet aussi de voir, vous voyez, justement, ce goût pour le mystérieux qui existe. Il y a une anecdote très amusante, je ne sais plus quelle.
Je me demande si c'est pas. C'est bien, il faut le
voir. Je raconte la dernière.
Il faut le laisser.
Et la dame est venue, accusée de d'empoisonnement. Elle est venue avec son mari, elle était censée avoir empoisonné son mari. Donc elle est venue au bras de son mari. Et l'araignée, vous voyez, lui croyait dur comme fer au diable, au démon. Et donc l'araignée lui demande, mais comment était le diable? Avez-vous vu le diable? Elle dit, en tout cas, je le vois maintenant, il est assis en face de moi, il est en habit noir, et il a un habit de conseiller d'État. C'était l'araignée lui-même, oui, c'était pour elle, elle en riait. Mais en même temps, vous voyez, Louis XIV lui a demandé quand même de se retirer en province, enfin dans son château pendant un certain temps. Donc vous voyez, c'est une sorte de bouffée de chaleur, mais qui est très intéressante parce qu'elle révèle finalement des pratiques un peu mystérieuse, qu'il y a que tout le monde adore, toute société a ses petits mystères. Et c'est pas pour ça qu'on tue les gens, on les empoisonne. Vous voyez, c'est du crime, du secret, du mystérieux. Au criminel, il y a quand même un fossé immense.
Et voilà.
C'est pas toujours.
Merci en tout cas d'être venu.
Merci beaucoup, monsieur.